Alors, dans l'histoire de la bande dessinée, tu montres comment l'influence américaine dans les années 30 va faire passer la bande dessinée de référence plutôt liée à la peinture, autant dans la composition que dans le rapport à la narration, vers des auteurs comme Caniff et Sickles qui vont l'amener vers des références plutôt liées au cinéma, à la photographie, et construire un style que tu appelles l'illusion référentielle, plutôt que comme réalisme. Alors on glisse vers une économie particulière que tu nommes la création sous contrainte, et la contrainte c'est celle de l'industrie en termes de format et surtout de productivité. Alors Milton Caniff, il est évidemment cité abondamment dans l'histoire. En quoi ça fait rupture par rapport à ce qui précède là dans les années 30?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de rupture, mais en tout cas, il concentre une série de choses. Donc il y a à la fois tout un pan de la littérature populaire, une littérature feuilletonesque que la bande dessinée va reprendre à son compte. Des choses comme beaucoup d'ailleurs seront adaptées en bande dessinée, comme Tarzan par exemple, Charlie Chan, ce détective asiatique, etc. Toute cette matière-là qui vient de la littérature populaire, qui est reprise, soit telle quelle, soit avec de nouvelles créations, mais qui en reprennent pas mal les codes. Donc on est dans une bande dessinée qui relève d'une forme de fiction aventureuse, de péripétie, et qui souvent s'inscrit aussi dans une série de genres institués qui sont toujours puissamment présents aujourd'hui, que ce soit le western, la science-fiction, le récit historique, le récit d'aviation, que sais-je encore. Alors cette tradition-là, elle va en fait nourrir plein de choses. Elle va nourrir le cinéma, elle va nourrir aussi ce qu'on appelait les serials, et ça c'est assez fondamental aussi, qui étaient ces ancêtres du feuilleton, mais qui passaient dans les salles de cinéma avant généralement le film principal. Et donc comme il n'y avait pas de télévision, les gens allaient beaucoup au cinéma, et donc chaque semaine avait l'épisode suivant qui recevait dans la salle. Il y a aussi le feuilleton radiophonique. Enfin, tout ça réutilise toute une série de choses qui viennent de cette littérature dite populaire, de petits fascicules bon marché comme ça, qui vont être réutilisés par tous les médias. La bande dessinée, vers 29-30, elle commence à adapter tout ça, et elle va aussi adapter un traitement esthétique qu'on appelle communément la bande dessinée réaliste. Bon, alors je parlais d'illusion référentielle dans ma thèse. Thierry Grunstein, qui était dans mon jury, m'avait proposé le terme est encore plus barbare, mais me semble très juste, de mimésis illusionniste, c'est-à-dire qu'on va, en gros, oublier le média, oublier le papier, oublier les bulles, oublier tout, faire en sorte que comme si on était plongé dans la réalité. En fait, je pense qu'on tente, dans cette bande dessinée dite réaliste, de recréer une expérience qui pourrait nous ramener vers celle du cinéma. Et ça reste le mode d'expression qui nous amène une expérience qui semble, c'est important de dire sembler, plus proche du réel. On est dans le noir, et donc il y a un spectacle qui se donne à voir devant nous. Il y a des anecdotes qui sont sans doute fausses, mais qui sont révélatrices, qui disaient que lors des premières projections de cinéma, il y a des gens qui s'enfuyaient, voyant un train arriver vers eux, pensant qu'ils allaient les écraser. Elle est peut-être fausse, mais en tout cas, elle est extrêmement révélatrice de l'impact que peut avoir le cinéma. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est avec le dessinateur, avec ses petites feuilles de papier, avec quelque chose qui n'est pas sonorisé? On va reprendre un traitement graphique qui effectivement semble s'inspirer du cinéma. On va retrouver des personnages qui ont d'ailleurs des physiques d'acteurs. Tous les canons de la beauté hollywoodienne, masculine ou féminine d'ailleurs, sont réinjectés dans la bande dessinée de cette époque-là. On voit des personnages féminins qui ressemblent à Carole Lombard ou à Marlène Dietrich, par exemple. On réutilise l'imaginaire, on réutilise les codes, et va se construire, là, effectivement, ce qu'on appelle, à mon avis, fort justement, la bande dessinée réaliste. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de réaliste, que ce soit la bande dessinée ou le cinéma hollywoodien. On est avec des personnages qui ont souvent une construction psychologique pour le moins sommaire, coup de théâtre pas possible. Flash Gordon est considéré comme une bande dessinée réaliste, mais tout ce qui s'y passe est pour le moins improbable. Mais il y a en tout cas la volonté que le lecteur se dise j'y crois, je fais comme si c'était la réalité. Et donc on construit des traitements graphiques qui semblent adaptés à ça. Et donc on s'inspire du cinéma, puisque lui semble fonctionner, lui semble donner cette illusion de la réalité. Et alors il y a plusieurs étapes, on peut dire, allez, pour simplifier à outrance, qu'il y en a un peu deux. Il y a une première qui est une bande dessinée, on peut dire, néo-illustrative, donc de gens comme Alex Raymond avec Flash Gordon ou Al Foster avec Prince Valiant et puis Tarzan aussi, et qui eux abordent la bande dessinée avec une âme d'illustrateur, qui sont très marqués par la grande peinture. Et il y a peut-être une explication à ce développement de cette bande dessinée dite réaliste, c'est que les États-Unis continuent, contrairement à ce qui se passe en Europe où il y a eu des ruptures qui sont liées à l'avant-garde, on a quand même une tradition d'une peinture académique qui, elle, pour le coup, est photoréaliste, qui continue à exister. On voit les illustrateurs de Life, par exemple, de magazines comme ça, ou des illustrateurs de romans, je pense à des gens comme Howard Pyle ou comme John Lagatta, qui marquent profondément Raymond et Foster. Et donc leur plaisir, c'est de dessiner, c'est de faire une belle grande image. Mais ce qui se passe là-bas, c'est qu'on est donc dans une bande dessinée très illustrative, qui souvent fonctionne avec du texte ou l'image, et les articulations, le fait qu'on va glisser d'une image à l'autre, elle est souvent apportée par le texte, qui est un texte très écrit et qui peut presque fonctionner de manière autonome. Je ne dis pas que c'est toujours des récits extrêmement bien construits, mais le texte tout seul, ça marche. Et donc on a quelque chose qui est assez peu immersif finalement, parce qu'on a des grosses articulations, le glissement, j'ai envie de dire, d'une image à l'autre n'est pas très très souple. On doit revenir vers le texte, s'extraire en quelque sorte de l'image pour repasser dans l'autre. Et ça donne des choses assez étonnantes d'ailleurs, parce que Raymond, lui, à une époque, a utilisé la bulle et puis va l'abandonner, ce qui est quand même tout à fait révélateur, mais on sent bien qu'il compose ses images et puis il ne sait pas trop bien où mettre les bulles. On a parfois une bulle qui sort d'un dos, voire d'un pied à un moment donné. Bon, ça ne pose pas de gros problèmes, je trouve, en termes de lecture. On comprend que c'est le personnage qui parle, mais c'est quand même un petit peu spécieux. En tout cas, des gens comme Raymond et Foster, sans doute les deux plus marquants, imposent en tout cas cette esthétique, cette mimésis illusionniste, comme le disait Thierry Croon. Et puis ben, donc reste la question de savoir mais comment est-ce qu'on peut conserver cette mimésis illusionniste mais trouver une fluidité. Et c'est sûr qu'il y a deux auteurs qui sont absolument fondamentaux, qui sont Noel Sickles et d'autre part Milton Caniff, qui vont construire ensemble quelque chose. Et avec d'un côté Sickles qui est plutôt l'expérimentateur, d'ailleurs sa carrière dans la bande dessinée va être assez brève, qui tente un tas de choses. Il y a certaines périodes où ça paraissait dans la presse quotidienne sous forme de strip, et donc d'une semaine à l'autre, le style change complètement. Il y a vraiment une volonté d'essayer un petit peu tout ce qui est possible. Et puis Caniff qui est dans le même studio et qui lui commence à repérer ce qui peut être efficace, qui peut être rentable dans une certaine pratique de la bande dessinée. Qui va consister à quoi ? C'est que Caniff, il est connu et il va influencer Pratt, mais aussi Giraud, Jigé, enfin des armées d'auteurs, avec ce fameux clair-obscur, avec ces jeux radicaux de noir et blanc, enfin ces jeux d'opposition, pardon, radicale entre les noirs et les blancs. Là aussi, il y a une influence claire du cinéma, qui à l'époque joue justement là aussi sur ces contrastes. Il n'est pas impossible, c'est une étude qui mériterait d'être faite, qu'il y ait une influence dans l'autre sens. Je suis persuadé que des gens comme Orson Welles ou peut-être Howard Hawks, ont dû voir Caniff, ont dû être marqués par ça. Il y a peut-être même des témoignages. Enfin, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. La photo est importante et aussi, ce qui est important, ce sont les photogrammes. On sait que les dessinateurs, souvent à l'époque, allaient dans les cinémas et récupéraient, une fois que le film n'était plus à l'affiche, récupéraient les photogrammes et les utilisaient eux-mêmes. Parce que les choix, évidemment, des photogrammes qui étaient pris n'étaient pas faits au hasard. Donc on avait là souvent des beaux jeux de contraste de noir et blanc qui étaient assez intéressants. Et donc on va créer là d'une part un dessin qui est moins illustratif que celui de Raymond ou de Foster, dans le sens où on va éliminer pas mal de choses. On va fonctionner sur des images qui sont moins des instantanées que des images dans lesquelles il y a du temps qui s'écoule. Et le parcours de Sickles et de Caniff est intéressant parce qu'ils sont partis d'un dessin qu'on pourrait appeler, là aussi c'est un terme qui mériterait d'être nuancé, mais utilisons-le par facilité, des codes qui étaient plutôt ceux de la bande dessinée humoristique avec quelque chose de plus rondouillard. Il a commencé comme ça Caniff. Et puis il a gardé cette dimension-là, tout en basculant vers un dessin qui commençait à donner l'illusion de la réalité. Et donc on a là quelque chose qui est plus fluide au niveau de l'enchaînement. On peut évacuer des choses, on peut mettre des choses de côté. L'importance du noir permet de ne pas tout représenter. Et puis il y a une autre contrainte qui se présente à nos auteurs, c'est qu'il faut faire beaucoup de dessins. Alors Foster, par exemple, prenait une semaine pour faire une planche de Prince Valiant. Donc c'était assez peu rentable, mais comme le dessinateur avait sa popularité, on lui laissait faire ça. Si on fait ça sous forme de strip quotidien, c'est plus possible. Donc on ne peut plus se permettre d'avoir une scène de bataille extrêmement complexe dans chaque case. Il faut commencer à rationaliser ça, et puis travailler avec des assistants aussi. Le fait d'avoir simplement beaucoup de noir, d'avoir toute une série d'éléments qui sont laissés de côté, qui sont laissés dans l'ombre, qui sont en quelque sorte suggérés, parce qu'en tant que lecteur, je sais qu'ils sont là, même si l'auteur ne les a pas représentés, ça permet d'aller relativement vite. Puis il y a la présence d'assistants, etc. Donc il semblerait bien que l'essentiel du travail de Caniff consistait à placer les personnages principaux, à les esquisser. Je pense que c'est lui qui terminait l'ancrage, mais il y a toute une série de tâches subalternes qui peuvent être aisément confiées à des assistants, même s'ils ne sont pas toujours d'une virtuosité extraordinaire. On arrive là à un dessin qui permet ça, c'est-à-dire qui conserve cette mimésis illusionniste qu'on trouvait chez Raymond et Foster et qu'on trouve dans le cinéma. On a une fluidité narrative qui fait que désormais, comme dans une bande dessinée, entre guillemets humoristique, comme dans Pim Pam Poum ou dans Blondie, on peut glisser de manière très fluide d'une case à l'autre. Et en plus, on a mis au point un système qui permet d'aller relativement vite. Ça reste un travail de staccanoviste, mais ça permet en tout cas de livrer tous les jours un strip de 3, 4 ou 5 images.
On a en plus une fusion bien meilleure que chez Foster entre le texte et l'image.
Les récitatifs et les bulles avec le texte, tout ça est évidemment pensé dans l'image et pensé comme élément graphique, et plus comme un à côté vers lequel il faut se rejeter en permanence. Et donc j'ai l'impression qu'en tant que lecteur, on ne sait même plus si on lit ou si on regarde quoi. Et là, chez Caniff, le texte, on l'assume en tant que tel, il est pris comme élément plastique aussi. Et donc on crée quelque chose d'harmonieux qui intègre le texte qui, pour d'autres auteurs, apparaissait plutôt comme un corps étranger.
On a aussi un glissement qui s'est opéré ici, qui est que la narration est portée plutôt par le dessin, accompagnée par le texte, mais on peut à un moment donné faire abstraction du texte et continuer à pouvoir suivre l'action. Là où on avait chez Foster le choix des meilleures scènes, des meilleurs moments, de ceux qui pouvaient être des morceaux de bravoure dans lesquels on allait pouvoir présenter la chevauchée, une belle image de jungle avec une jeune fille, etc., un drapé, ce genre de choses. Ici, il y a une pensée de l'économie aussi, de l'économie dirigée vers l'action chez Caniff. Et on va pouvoir accompagner l'œil dans son parcours narratif et amener l'information par ce biais.
Oui, bien sûr. Ça dit, il y a des morceaux de bravoure chez Caniff aussi, hein, mais ils sont dosés. Parce que ça veut dire aussi que cette approche-là, elle implique l'existence qu'on pourrait appeler des cases intermédiaires, donc des choses qui, en termes d'enjeux esthétiques, n'apportent pas grand-chose. Je ne sais pas, moi, une main qui frappe à une porte, un téléphone qui sonne, mais qui sont nécessaires, effectivement, pour conserver cette fluidité narrative. Et effectivement, cette norme-là s'impose dans la production industrielle, avec des choses d'ailleurs aux États-Unis, ce qui va suivre en général est nettement moins exaltant. Je veux dire, les gens qui vont reprendre Terry les Pirates, ou une espèce de seconde génération de dessinateurs de Tarzan ou de toutes ces bandes dessinées d'aventure sont en général beaucoup moins inspirés, parce que je pense qu'eux ne sont plus dans la création de codes, ils sont dans la redigestion de codes qui existent déjà. Mais ça, effectivement, ça s'exporte vers l'Europe. Ça dit que Caniff est moyennement bien diffusé dans les revues qui sont traduites en français, en italien, en espagnol, mais par contre, les dessinateurs qu'ils connaissent ne passent pas à côté. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a toujours des contacts qui sont plus importants qu'on ne peut le penser. Il y a des lettres par exemple de Jigé qui demande à Maurice Rossi qui était allé aux États-Unis s'il ne pouvait pas lui ramener des Sunday Pages parce qu'il voulait regarder ça. Donc ils sont au courant, ils voient les choses. Et là, cette espèce de, on a presque envie de dire, de recette miracle avec tous les guillemets que ça impose, ça s'impose partout à peu près. Donc on va la retrouver en Europe dans les années d'après-guerre essentiellement. Ça va donner Jigé, puis ça donnera Giraud, ces espèces d'armada de bandes dessinées dites réalistes qui continuent à fleurir sur les étalages de la FNAC. Mais c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai en Yougoslavie, c'est vrai en Angleterre. Ça crée ce qui s'impose comme une norme. Et ce qui est intéressant de montrer quand même, c'est qu'on a parfois tendance à penser que le réalisme est quasiment quelque chose de consubstantiel à la bande dessinée, comme s'il était inné, comme si... il y a une anecdote que je cite dans ma thèse d'un dessinateur qui m'expliquait qu'il avait été présenté des planches du Puy. Le responsable éditorial lui avait dit « mais c'est vraiment bien, mais on ne sait pas si tu veux faire de l'humoristique ou du réalisme », comme s'il fallait absolument aller se taper dans une de ces deux cases-là, comme s'il n'y avait pas de possibilité d'aller se situer autre part sur le spectre. Mais donc ça s'impose comme une espèce d'évidence, comme quelque chose de presque naturel à la bande dessinée, alors que ce n'est rien d'autre qu'une création, c'est une création pure et simple, et qui est d'ailleurs relativement tardive. On ne va pas s'aventurer dans les questions d'invention de la bande dessinée, mais en tout cas, au milieu du 19e siècle, avec Töpfer, elle est déjà bien là. La mimesis illusionniste, elle arrive 1929-1930, donc on est pas loin d'un siècle plus tard. Donc c'est extrêmement tardif.
On peut dire aussi qu'à ce moment-là arrivent les premiers professionnels de la profession, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment mettre en place ce métier. Là où on avait, dans les années 10-20, tout un tas de personnes qui pouvaient être de l'ordre de l'artiste frustré et qui pouvaient s'essayer à la bande dessinée à un court moment, amener des solutions plastiques qui venaient parfois de l'abstraction, parfois du cubisme, de toutes sortes de choses. Et que là, on va avoir d'un seul coup un champ quasiment autonome de la bande dessinée qui va se construire avec ses propres références et qui va s'abstraire quelque part d'une partie de l'histoire de l'art pour mener sa petite barque à lui.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette période qui commence à l'aube du XXe siècle et qui va se diluer dans les années 20 et qui correspond au moment donné aux États-Unis où la bande dessinée arrive massivement dans la presse et donc doit se poser sans doute auprès des directeurs éditoriaux, se dire mais qui est-ce qu'on prend pour faire ces bandes dessinées ? Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui sortent des écoles, etc. Et on peut aller les pêcher. À ce moment-là, c'est effectivement des gens qui viennent de l'illustration, beaucoup de l'affiche aussi, qui ont une connaissance très, très pointue de l'avant-garde picturale de l'époque. Et tu parles du cubisme, il y a un cas emblématique qui est celui de Lionel Feininger, qui va dessiner, je pense, pendant à peine plus d'un an, des bandes dessinées qui restent extrêmement remarquables. Et puis, il va continuer une carrière dans la peinture. peintures. J'ai presque envie de dire que ces planches de bande dessinée me paraissent même plus intéressantes que ces peintures. Mais là, on est dans une période effectivement de dialogue permanent entre l'avant-garde picturale et ce qui se passe dans la bande dessinée à la même époque. On pense à Crazy Cat, par exemple, ou Polyanor Pals de Cliff Steered, qui là aussi sont des bandes dessinées qui sont marquées par le cubisme, par le futurisme notamment. Et puis beaucoup de choses aussi qui vont dans l'exploration du merveilleux, comme Little Nemo, évidemment, parce que je pense aussi qu'on est dans un domaine qui est extrêmement plastique, où tout peut se passer. Quand on est dans le domaine du rêve, on peut imaginer qu'un bâtiment se lève, il lui pousse des pattes ou il commence à s'allonger démesurément, ça fonctionne et on peut créer un objet plastique avec la planche comme ça. Crazy Cat, c'est un univers qui est indéterminé, donc là aussi tout est possible. Et donc ça permet effectivement à ces velléités, à cette expérimentation qui vient de l'avant-garde picturale de s'exprimer là-dedans. Bon, alors ça c'est une période assez courte, hein, cette tendance au merveilleux, elle va s'arrêter assez rapidement. Et en même temps, elle est plus ou moins contemporaine du développement du gag strip ou du kid strip, comme les fameux Katzenjammer Kids, qui sont ces deux gamins qui vivent sur une espèce d'île exotique et qui jouent toute une série de tours pendables aux adultes, hein, qui sont un peu des ancêtres de Kuk et Fluke, voire Boule Bill ou Titeuf par la suite. Et là, ça s'impose assez vite, ça connaît un succès populaire énorme, et donc là, effectivement, ce style rondouillard devient une norme, et comme tu le dis, il y a une forme d'autonomisation, où effectivement, on sort là de l'histoire de l'art, et ce style rondouillard va continuer à se développer, et presque, j'ai presque envie de dire, presque dégénérer jusqu'à les trucs que sortent Bambou aujourd'hui, qui sont finalement une espèce d'ultime déclinaison de tout ça, de descendants dégénérés à force de se recopier entre eux, quoi. Et donc ça, c'est un pan. Et puis il y a l'autre qui arrive un petit peu plus tard, qui est ce que je décrivais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire l'arrivée de ces bandes dessinées de genre, inspirées de la littérature populaire, et qui impose ce dessin dit, entre guillemets, réaliste.
Okay. La prochaine fois, on regardera comment, à l'intérieur de cette tradition que Milton Caniff initie, on va avoir des personnages comme Hugo Pratt et une espèce de petite bande venant de Venise qui va se retrouver par une suite de hasards en Argentine, où là, on va avoir une forme de branche qui va mener vers une série de changements et qui vont nous amener vers Munoz et Sampaio.